C'est l'heure de débattre, de parler politique avec nos impétrants, si Alain Duhamel accepte l'expression. Bonsoir Alain. Impétrant, ça, je peux.
Ça ne correspond pas tout à fait à ce qui me concerne, ou alors il faudrait être impétrant depuis 60 ans.
Bonsoir. Et Caroline Mécari qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Maître. Bonsoir Caroline Mécari.
Merci
qui
beaucoup.
Est avocate, ancienne
oui.
candidate aux élections législatives à Paris sur la bannière NUPES LFI.
Oui.
On connaît, Alain, les tensions internes au sein de la NUPES, tant la stratégie de la France insoumise aussi divise. La réintégration d'Adrien Quatennens n'a pas arrangé les choses. La NUPES est-elle au bord de l'implosion, Alain?
Non, je ne dirais pas qu'elle est au bord de l'implosion, mais je dirais qu'elle traverse une grosse crise d'adolescence. Et la question est de savoir comment elle en sortira. Elle traverse une crise d'adolescence en tant que telle, globalement. Bon, on voit bien, il se chamaille surtout. Évidemment, l'affaire Quatennens en rajoute pour le dernier épisode. Mais ils sont en désaccord sur beaucoup de choses. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que chacune des composantes a son problème en ce moment. Les Insoumis, ben on voit très bien, il y a l'affaire Quatennens, mais il y a aussi le leadership de Jean-Luc Mélenchon, la nouvelle équipe qui a été nommée, etc. Ça remue comme ça ne l'avait jamais fait. Chez les communistes, il y a une sorte de début de résurrection, donc de volonté d'indépendance et de s'affirmer. Chez les socialistes, ils sont totalement déchirés et vraisemblablement, ils le seront de plus en plus. Et les écologistes, eux, ne rêvent qu'aux élections européennes qui vont leur permettre, espèrent-ils, de ressusciter d'une certaine façon. Bon, la question à partir de ça, c'est qu'il y a deux constatations historiques. La première, c'est que la gauche ne gagne jamais si elle n'est pas unie. Ça, c'est un fait. Et la deuxième, c'est qu'elle n'a jamais gagné quand la gauche radicale était plus forte que la gauche réformiste.
Madame Icari, réponse.
Débrouillez-vous avec l'analyse.
Non, mais c'est assez simple. D'abord, je vous rejoins totalement sur le fait que vous avez parfaitement raison. La gauche écolo, elle ne peut pas gagner si elle n'est pas unie. Donc, le tangage que la NUPES traverse aujourd'hui, c'est un tangage. Mais on a le temps jusqu'à 2027 quand même. Donc, vous savez, je crois que et les uns et les autres ont bien compris que on ne s'en sortirait qu'avec l'unité. Parce que je vous rappelle quand même que Madame Hidalgo a fait un sort ridiculement petit à la présidentielle. Ouais. Je vous parle pas de Monsieur Roussel avec son sort ridicule et avec Europe Écologie Les Verts qui n'était vraiment pas à la hauteur des espérances d'Europe Écologie Les Verts. Donc, en réalité, on n'a pas d'autre choix que d'être unis et de trouver la manière de se rassembler. On a quand même un programme qui n'est pas anodin et qui, pardonnez-moi...
Non, ça, je suis totalement d'accord,
il n'est pas anodin.
Il
est consistant, mais il est de la même nature...
Il est pimenté.
Non, il est de la même nature que le programme de François Mitterrand en 1980 et que je sache,
que je connais
on
bien.
Ne disait pas de François Mitterrand qu'il était... un radical de la gauche ou de l'extrême gauche.
On ne disait pas ça.
Non, il faut ramener les choses à leur réalité.
Enfin, c'était pas Georges Marchais qui le portait.
Non.
C'était François Mitterrand.
Le patron, c'était Mitterrand et le parti qui dominait, qui commençait à dominer, c'était les socialistes.
Oui, mais quand vous regardez le programme,
oui,
quand
le rapport
vous comparez,
de force est inversé.
Ah, mais le programme, je le connais par cœur,
le programme de Mitterrand. Quand vous comparez le programme de la NUPES avec l'écologie en plus, parce qu'évidemment, nous sommes confrontés
à une grande différence.
À une crise écologique.
Il y a une grande différence, si vous me permettez.
Voilà la grande différence, oui, je vous en prie.
C'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un dont on peut penser, en tout cas dont moi je pense, qu'il a vraiment envie de mettre en œuvre ce qu'il propose. Ce qu'il propose ne va pas du tout.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Attendez, je pense qu'il est sincère.
Ah bah oui.
Bon, François Mitterrand, que je connaissais par cœur, avant, pendant et après, François Mitterrand, je n'ai jamais pensé à un instant qu'il croyait vraiment au programme qu'il présentait.
Il l'a appliqué au début.
Il l'utilisait.
Il l'a appliqué pendant 80 ans.
Il l'a appliqué pendant 2 ans.
Et il l'a appliqué pendant...
Les nationalisations.
Il l'a appliqué pendant un an. Il l'a appliqué pendant un an. Puis, il a pris des distances bien forcées, puisqu'il y a eu 3 dévaluations pendant la deuxième année. Et puis il a fait autre chose, qui était d'ailleurs beaucoup plus raisonnable.
Tournant de la rigueur.
Social-démocrate. Permettez-moi, si je faisais cette comparaison avec François Mitterrand, et surtout, non pas avec la personne de Mitterrand ou de Mélenchon, avec le programme. Le programme de la NUPES n'est pas il est quasiment identique à celui de François Mitterrand. Et donc aujourd'hui, dire de la NUPES que c'est l'extrême gauche radicale, pardonnez-moi.
Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas employé ces mots.
Oui, vous ne les employez peut-être pas, mais trop nombreux sont les gens qui les utilisent.
Je suis responsable de ce que je dis, pas au-delà.
Nous sommes la gauche écologiste. En tout cas, la NUPES est la gauche écologiste.
Madame Ekari, que répondez-vous à Fabien Roussel pour continuer à avancer, qui dit très clairement que la NUPES, c'est terminé et qu'il faut dépasser la NUPES et qu'il veut tendre la main à Bernard Cazeneuve, par exemple.
Et qui veut un front populaire.
J'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais franchement, Fabien Roussel, enfin, j'ai envie de dire que c'est presque d'une certaine manière, c'est presque un idiot utile, ou en tout cas, c'est un coco de droite. Excusez-moi.
C'est
un coco de droite, un communiste de droite, très sincèrement. Est-il capable? Ce n'est pas lui qui, après la présidentielle, a été le fer de lance de l'Union. Au contraire, je dirais qu'il a, il a été rétif, absolument. Mais néanmoins, il savait qu'il en avait aussi besoin. Donc aujourd'hui, il essaye vaguement d'avoir un peu d'indépendance. Mais je vous dis, ce sont des remous aujourd'hui. 2027, réellement, il faudra une gauche écolo avec les communistes, le Parti socialiste qui s'honore au moins d'avoir un Olivier Faure qui lui rend son honneur, réellement, en se recentrant sur vraiment ce qu'est le socialisme. Et dans cette union, peut-être que 2027 sera une alternative.
Alors, pour en revenir à Fabien Roussel, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne crois pas que c'est un coco de droite. Je crois que c'est un populiste de gauche. Et ça n'est pas la même chose. Je pense que c'est quelqu'un qui est sincère, qui a une forme de charisme, qui a trouvé un ton à lui. Alors, bien sûr, il utilise des ficelles, mais quel est l'homme politique qui n'utilise pas de ficelles? Qui sait se mettre en scène, par exemple, pendant son congrès? C'est les plus belles images politiques que j'ai vues quand il était, d'ailleurs, c'était sur BFM, quand on le voyait derrière un paysage idyllique et en train de promettre des choses formidables, on avait presque envie d'y croire. Enfin, moi, pas vraiment, mais d'autres avaient certainement envie d'y croire. Il est en train de reprendre des forces quand même. On voit très bien et son image personnelle et ce qu'on dit. Bon, sur les intentions de vote, il faut se méfier de ce qu'on dit aujourd'hui.
Oui.
Mais enfin, c'est un des bénéficiaires de... Autrement dit, le désordre de la NUPES lui profite. Alors que le désordre de la NUPES handicape peut-être injustement d'ailleurs, handicape Jean-Luc Mélenchon. Alors quand... au premier secrétaire du Parti Socialiste, rendre son honneur au Parti Socialiste, je trouve que ce sont de bien grands mots pour une petite chose.
Puisqu'on parle de désordre, Madame Ekari, ce désordre, il a été accentué là depuis ces dernières heures par la réintégration d'Adrien Quatennens au sein de la France Insoumise, dans le groupe, après un purgatoire de 4 mois. Vous approuvez?
Alors moi, je vais vous dire une chose très simple et très claire. Vous savez que je suis avocate de profession.
Ah, je sais.
Voilà. Étant avocate
d'ailleurs,
de profession...
D'ailleurs, ça s'entend.
Voilà. Étant avocate de profession, si vous voulez, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à partir du moment où un individu, une personne, a à la fois reconnu sa faute, a été condamné à payer sa dette à la société... Eh bien, il n'y a rien qui interdise qu'il soit réhabilité et qu'il revienne dans la société. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est un principe qui est véritablement...
fondamental.
Qui est vraiment fondamental, qui est cardinal. Donc ça, c'est l'avocate qui vous parle. Après, je peux comprendre que, politiquement, on instrumentalise le retour d'Adrien Quatennens pour des raisons politiciennes. Les adversaires politiques...
Sandrine Rousseau, elle est contre,
je suis d'accord qu'elle n'est pas un adversaire politique, mais bon, on peut avoir... Ce n'est pas parce qu'on a des divergences que, nécessairement, on va aller à la rupture. Les choses se calmeront.
Le Parti Socialiste a dit que c'était inacceptable.
Mais j'entends bien.
Et
en même temps, le Parti Socialiste...
Olivier Faure est le plus critique et le plus choqué. Et comme vous trouvez qu'il est sincère et important, ça doit vous gêner un peu.
C'est pas que ça me gêne, c'est que je respecte tout à fait ce que dit Olivier Faure. Voilà, c'est pas un adversaire, il a le droit de penser comme il pense.
C'est pas une faute politique, cette réintégration?
Écoutez, je sais pas si c'est une faute politique. On pourrait considérer que c'est une faute politique, mais ça, je sais pas comment vous dire. Regardez.
Vous auriez dit oui,
regardez, excusez-moi.
Vous auriez dit oui, Madame Ekari, ensuite comme ça.
Sur le plan des principes en tant qu'avocate, oui, j'aurais dit oui, absolument.
Et en tant que féministe.
Alors excusez-moi, c'est pas une histoire d'être féministe ou pas féministe, parce que pour moi, il y a absolument pas de peine. Il y a pas de peine qui puisse être éternelle. Je répète, quelle que soit l'infraction qu'on a commise, à partir du moment où on a été condamné et qu'on a payé sa dette. C'est-à-dire, il y a les 4 mois de sursis, il y a le stage qu'on l'a fait. Alors, normalement, réellement, on doit réintégrer la personne. Non, mais, tout le monde a le droit à l'erreur. On a tous droit à l'erreur. C'est même d'ailleurs dans la loi, si j'ai envie de faire une petite pirouette.
Oui, enfin, je suis totalement d'accord avec vous, c'est du point de vue juridique.
Oui.
Non, mais donc je suis d'accord du point de vue juridique. La question est du point de vue politique, puisque c'est ça dont il est question, très largement.
Du point de vue politique.
Attendez, là c'est
moi. Pardonnez-moi, excusez-moi.
Du point de vue politique, ça ne peut se faire qu'au détriment de l'image de la NUPES, d'autant plus que la spécialité, alors historique, de la gauche, ça a toujours été de vouloir incarner une forme de morale, et de morale sociale et de morale individuelle. Bon, le fait est que ça n'est quand même pas, en l'occurrence, le symbole le plus porteur. Pas simplement pour les féministes, pour beaucoup de gens, c'est la question... Non, pas de sa culpabilité. Il a dit ce qu'il a fait. Sur ce point, ce qui s'est passé est normal. Mais la question est que ça fait des dégâts politiques qui sont des dégâts considérables parce que, comme la gauche se veut toujours exemplaire, quand elle ne l'est pas et que c'est mis en scène et que c'est critiqué de l'intérieur, elle s'affaiblit.
Sans doute, momentanément. Sans doute. On verra bien. Enfin, en tout cas, il n'a pas repris, que je sache, de fonction au bureau politique de...
Ben non, les autres ne veulent pas.
Donc,
Jean-Luc Mélenchon, c'est l'atout de la NUPES ?
Pardon ?
Jean-Luc Mélenchon, c'est l'atout de la NUPES ?
C'est encore un atout ?
Vous avez dit non, c'est pas ça, c'est que je réfléchis en même temps, c'est que j'ai pas une réponse automatique comme ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est à la tête de l'Institut de la Boétie. C'est-à-dire que c'est encore un des hommes politiques qui est cultivé, qui réfléchit, qui ne cesse de réfléchir et qui participe à ce qui peut alimenter la réflexion politique dans la gauche écologiste. Et en ce sens-là, oui, ça reste un atout.
Oui, mais la question, c'est de savoir s'il reste, parce que ça fait aussi partie de ce qui est essentiel pour retrouver le pouvoir ou pour y arriver pour la première fois. Ça, c'est à voir. Il faut un leader, de préférence un leader charismatique, ce que lui est.
Oui.
Mais sera-t-il le leader charismatique?
Et rassembleur.
Est-il reconnu comme tel par l'ensemble de la NUPES? Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie des socialistes qui répond non, partie des écologistes qui répond non, parce qu'il y a toujours une partie des écologistes qui répond non, et que il y a les communistes, évidemment, répondent non, et que c'est ça qui est le plus frappant. À l'intérieur des insoumis, on voit des rivaux qui sont en train de prendre date. On voit François Ruffin qui essaye visiblement non seulement de se démarquer, mais de se hisser. Je ne sais pas s'il y parviendra, mais enfin, il en a visiblement envie. On voit Clémentine Autain, je pourrais vous en citer au moins 2 ou 3 autres.
Et puis, il y a une offre aussi à gauche, autre que la NUPES, qui va se mettre en place. On voit Bernard Cazeneuve qui est de retour.
Vous voulez dire la marge des socialistes ?
Pour vous, une Carole Delga, une Bernard Cazeneuve, tout ça, non ?
Non, excusez-moi.
Je croyais qu'il fallait rassembler.
Mais moi, je veux bien rassembler, je n'ai pas de problème avec le rassemblement, mais pour le moment...
C'est les gens qui étaient au pouvoir avec François Hollande.
Oui, c'est des gens de droite, en réalité, ou ce sont des chevaliers de droite.
François Hollande, c'était un président de droite ?
François Hollande a fait une politique de droite, voilà, très clairement.
Non, il a d'abord fait une politique de gauche.
Dès septembre 2012, il a validé la signature du pacte de compétitivité. Ensuite, il a mis en place la réforme El Khomri, etc.
Le mariage pour tous, c'était pas de droite.
C'est la seule chose qu'on retiendra de François Hollande, c'est-à-dire avoir permis, en effet, qu'une catégorie de citoyens qui étaient exclus du mariage civil puisse avoir accès au mariage civil.
Il a fait beaucoup d'autres choses. De gauche, il a fait une chose de gauche qui n'est pas particulièrement populaire, mais qui, en revanche, arrive à chaque fois. C'est-à-dire un énorme choc fiscal en s'installant. Ça, on ne peut pas dire le contraire.
Et après, à partir
de janvier 2014, il a mené une politique économique qui, à mes yeux, était une politique économique raisonnable et qui, d'ailleurs, commençait à donner tout à fait logique.
C'est une politique économique néolibérale avec la mise en place. La mise en place d'une politique de l'offre, c'est quand même un contresens absolu. Il a mis en place une politique de l'offre.
Je vous dis, il a mis en place ça, mais non, ça n'est pas une aberration.
Ah, c'est une politique de droite. Habituellement, non. Ce ne sont pas les socialistes qui font ce type de politique. C'est plutôt une politique keynésienne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pas de l'offre, pas de la dépense.
C'est une politique.
On augmente les salaires, etc.
C'est une politique keynésienne, mais comme vous le savez, Keynes était considéré comme l'économiste de gauche.
C'est bien ce que je vous dis. Quand je dis une politique de droite, c'est une politique pour les entreprises.
Dernière question. Oui. Parce que là, demain, il y a une nouvelle journée d'action. Il y a la décision attendue du Conseil constitutionnel. Si le Conseil valide tout ou une partie de cette réforme, il faut passer à autre chose ?
Malheureusement, je crains fort que le Conseil constitutionnel, qui a une composition politique et qui n'a pas vraiment, n'a pas montré sur les trois dernières décennies qu'il était un véritable contre-pouvoir. Donc, en effet, je pense que la réforme va être validée.
Il sera aux ordres de l'Élysée, le Conseil constitutionnel.
C'est pas qu'il est aux ordres, c'est que depuis des décennies, en réalité, ce n'est pas un contre-pouvoir. Ce n'est pas une juridiction digne de ce nom. Très sincèrement, c'est une juridiction qui est composée de personnes. De juges qui sont des politiques, qui n'ont d'ailleurs même pas de moyens personnels, ils ne connaissent pour la plupart d'entre eux pas le droit, donc ils viennent au soutien des réformes mises en place par le gouvernement.